Alors, je commence par dire que il y a quatre évangiles. Et l'évangile qui est le plus difficile à comprendre et qui, justement, provoque le plus grand nombre de difficultés dans l'interprétation de la Bible, c'est Matthieu. Matthieu, c'est un livre écrit aux Juifs pour présenter Jésus comme roi. Alors, quand on lit le livre, on trouve tout de suite qu'il y a deux grands discours de Christ. Il y a le discours sur la montagne, et cela a été en Galilée, tout à fait au début de son ministère. Et là, vous voyez le Seigneur en train de donner les principes de son royaume. Alors, attention, le livre n'a pas été écrit à l'Église. Ceci va vous aider énormément sur la clé du livre. Les principes qui sont donnés sur la montagne au début, c'était sur la montagne en Galilée. C'est très joli, hein? C'est en pente là. Et ça surplombe le lac de Galilée. Aujourd'hui, il y a une pelouse là. Et probablement, il y avait une pelouse à cette époque-là aussi, parce qu'il y avait toute cette foule qui était là. Et chapitre 5, 6 et 7 présentent donc les principes de son royaume. Or, ces principes de son royaume sont des principes valables pour tout le temps. Comme il a dit, il a été écrit ou il a été dit, il ne faut pas commettre l'adultère. Mais moi, je vous dis, et tout le long, ça a été dit, mais moi, je vous dis, c'est le roi qui donne les principes à son peuple. Ça va vous aider à comprendre. Donc, ne jetez pas le livre de Matthieu maintenant, ne l'enlevez pas de votre Bible, hein, quand même. Parce que ces principes sont valables pour nous. N'est-ce pas, n'aimez pas que vos amis, aimez vos ennemis. Et tout le long, c'est bon, ces principes. Mais ces principes sont les principes de son royaume qu'il va établir. Et quand il est venu comme le roi d'Israël. Il a été rejeté. Et parce qu'il a été rejeté, les principes qu'il a donnés sont rapportés pour quand il reviendra. Vous vous souvenez, pendant son ministère, les disciples ont dit, est-ce que c'est maintenant que tu vas établir le royaume? Donc, les deux choses principales à retenir, c'est le roi et son royaume. Il n'y a pas vraiment un roi sans royaume, il n'y a pas vraiment un royaume sans un roi. Les deux marchent ensemble et tout le long du livre, il est question, le roi est là. Le roi a été refusé et le deuxième discours, c'est le discours quand il reviendra. Et les signes qui vont annoncer sa venue. Le roi vient. Ça, c'est le message, le roi vient. Les Juifs attendent le Messie, parce que le Messie et le roi, c'est le même. Par exemple, quand l'aveugle a dit, Fils de David, souviens-toi de moi. Ah, Fils de David, ça c'est le roi, Fils de David. C'est le titre, c'est un des titres d'ailleurs de Jésus, Fils de David. Et comme Fils de David, il est aussi le Messie. Le Messie et le roi sont pareils. Et quand il a dit fils de David, il voulait dire mon Dieu, parce que le fils de David, c'est le Messie, Dieu lui-même. Alors voilà, c'est pour cela que Jésus a tourné vers lui, il a dit, voilà, ta foi t'a sauvé. Oh, le roi va venir. Le roi va venir. Et maintenant, je vais demander à Emmanuel de lire en Jérémie, chapitre 23. Verset 5.
Jérémie 23, à partir du verset 5. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. »
Voilà, donc vous voyez, il annonce l'arrivée du roi. Le roi viendra, il régnera, donc il présente le roi, là.
Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel.
Alors, maintenant, il a présenté le roi. Le roi, sans royaume, n'est plus un roi. Maintenant, il va présenter le royaume. Regardons ensemble, pendant qu'il lise.
C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël, du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays.
Merci. Alors là, c'est le passage qui concerne son retour. Ici, il désigne à quel moment le roi va régner. Le roi va régner quand son peuple est de nouveau dans le pays. Ils viendront d'abord, il a dit, du septentrion, la Russie. Vous savez, comme moi, que les premiers juifs qui sont entrés en masse en Israël sont venus de la Russie. Du septentrion. L'exactitude de la parole de Dieu, c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors ici, vous voyez, le roi et son royaume. Unis ensemble, le royaume sera à la fin des temps, quand Israël sera de nouveau dans le pays. Dans le temps, dans la semaine dernière, je vous ai dit qu'il est aussi dit, Jésus l'a dit, la génération qui verra donc le figuier fleurir sera la génération qui verra le Fils de Dieu venir en gloire. Le roi vient. Le roi vient dans cette génération-là. Moïse dit en psaume 90 qu'une génération est de 70 ans ou de 80 ans. Alors nous allons prendre le plus extrême, 80 ans. Parce que la semaine dernière, je vous ai lancé des chiffres et aujourd'hui, je vais essayer de mieux expliquer la raison de ces chiffres. C'est qu'il y a 80 ans, ça sera l'arrivée du roi. Disons, 80 ans, le roi vient. Israël a 62 maintenant. Donc, ça c'est 18 ans. Au maximum, parce qu'il peut venir avant, il peut venir avant les 80 ans. Mais admettons qu'il attend, parce qu'il est toujours miséricordieux et lent, alors il va certainement, je dis certainement, probablement, disons, attendre les 80 ans. Donc c'est 18 ans d'ici. Oui, mais il faut enlever les 7 ans de la tribulation. Donc ça fait 11 ans. Alors, dans ces 11 ans, qu'est-ce qui doit se passer? Bon, il y a donc la destruction des mosquées, la construction du temple, le commencement de l'adoration, l'arrivée de l'Antichrist, mise à la tête du monde entier. Donc il faut donc qu'il y ait un effondrement probable de tout l'argent du monde, pour souder le monde ensemble pour un seul argent. C'est très probable. Ce n'est pas totalement dans la Bible, sauf qu'il y a, il va régner sur la terre entière. Pour qu'il règne en terre entière, il faut que, donc qu'il y ait un gouvernement mondial qui s'établisse. Donc, toutes ces choses vont arriver, mais vous dites, mais beaucoup de ces choses peuvent arriver simultanément, et je suis d'accord avec vous. Mais attention, il y a dans cette période, ces 11 ans-là, bon, à la fin, il y a la guerre d'Armageddon, juste avant sa venue, mais avant tout cela, il y a la guerre en Israël, la guerre israélo-arabe, qui se prépare actuellement, une guerre à outrance. Et puis, il y a donc un temps de paix pour préparer la guerre suivante, c'est la descente de la Russie, la guerre de Gog et Magog d'Ézéchiel, Ézéchiel 38, et cette guerre qui se déroule. Et puis, il y a un temps aussi après cela, donc ces guerres ne peuvent pas être une semaine d'intervalle quand même. Vous le comprenez ce que je veux dire, ça va prendre du temps pour faire tout cela. On a 11 ans pour faire tout ça. J'ai dit la semaine dernière, c'est ma première tranche de temps pour l'enlèvement, c'est d'ici 2 ans et demi, 3 ans. Ce n'est pas gravé sur les pierres, ça. Ça peut aller, il peut attendre encore 1 an de plus ou 2 ans, mais rappelez-vous, si on enlève 3 ans d'11 ans, ça fait 8 ans pour tout faire. Et si on enlève encore 2 ans, ça fait donc que 4 ou 5 ans. Alors c'est très peu de temps pour faire 2 guerres et pour enlever tout cela. En ce qui concerne cette guerre entre Israël et les pays arabes, que je vais développer un jour, bientôt, mais pour le moment, disons-le comme ceci, c'est que cette guerre-là se prépare à outrance. La Syrie a réussi, d'ailleurs, je vous ai dit que ils allaient amener des Scud, des missiles Scud avec des Hezbollah au Liban. Je vous ai dit que tout n'était pas là encore. Maintenant, tout est là. Quand ils ont vu qu'Israël n'a pas bougé, ils ont tout mis là-bas. La semaine dernière, Medvedev est allé en Syrie. Quand il était là en Syrie, la semaine dernière, il a promis des armes les plus développées, les plus perfectionnées que la Russie possède, qui vont les envoyer tout de suite. Obama a vite téléphoné à Medvedev pendant 1 heure et demie pour essayer de savoir ce qu'il a dit et ce qu'il a promis. On ne sait pas encore quel rôle l'Amérique joue dans cette affaire-là. Mais en attendant, la Syrie et le Hezbollah sont en train de faire un mur de 22 kilomètres de longueur entre les deux pays, entre le Liban et Israël, et pour arrêter les tanks israéliens, s'ils veulent venir là-bas. Alors ça aussi, ça montre qu'il y a quelque chose, ou à propos, il y a quelque chose d'amusant là-dedans. Ils sont arrêtés momentanément parce qu'il n'y a plus de ciment. Mais ils vont en procurer bientôt, et la construction de ce mur de 22 kilomètres va continuer. Ce que je veux simplement dire, c'est que dans la Bible, quand la Bible parle de cette guerre israélo-arabe, ça mentionne le pays d'Égypte. Or, le pays d'Égypte n'est pas dans le groupe belligérant contre Israël. C'est la Syrie, l'Iran, Hezbollah et bien sûr Hamas. Alors voilà ce qui attaque maintenant. Mais Moubarak, à la tête de l'Égypte, se recule et ne veut pas avoir quelque chose à faire avec cela. À tel point, il se recule qu'il a même arrêté l'arrivée de Assad de Syrie, qui est à la tête de la Syrie. Il a dit, je ne vous invite pas, vous ne pouvez pas venir en Égypte. Il voulait venir à Sharm el-Sheikh, là, pour une vacance, il a dit non. Alors, c'est à ce point-là. Donc, il y a vraiment une division entre la Syrie et l'Égypte. La raison pour laquelle je vous dis tout cela, c'est que jusqu'ici, c'est toujours les petites guerres, les petites guerres, les petites guerres, en préparation de la grande guerre. Mais est-ce qu'on se prépare actuellement pour une petite guerre encore, ou est-ce qu'on se prépare pour la grande? Parce que la grande sera la grande, hein, ça va être terrible, que je vous expliquerai un jour, bientôt. Mais cette guerre-là, plus ça tarde, plus il s'arme, plus il y a de pays qui s'engagent là-dedans, plus ça risque d'être la grande. Si c'est la grande, c'est la première grande guerre des trois à la fin des temps. Je vous dis ceci pour que vous gardiez l'œil sur l'Égypte. Si l'Égypte décide, pour une raison ou une autre, de se joindre à la Syrie, à ce groupe de pays, Iran et les autres, là vous pouvez être sûr que c'est la grande. Regardez, moi je regarde tous les jours pour savoir si l'Égypte va changer de côté. Parce que cette guerre sera une guerre à outrance. Ça veut dire que nous sommes très, très proches de la fin. Ce que j'ai voulu dire la semaine dernière, que la première tranche que je donne moi-même, où je vois le Seigneur venir, c'est d'ici 3 ans. Mes deuxièmes tranches, c'est les 2 ans qui suivent. Après cela, je n'aurai plus rien. Parce que ça ne laisserait que 5 ans pour 2 grandes guerres et pour la destruction des mosquées, la construction du temple, l'adoration, tout. Il y a trop. Tout cela, les événements se déroulent rapidement, mais il faut quand même quelques semaines entre 2 guerres, quand même. Alors, nous sommes très près. Or, si je pouvais le faire comprendre, mais c'est difficile. Comprendre intellectuellement, oui, on peut, mais qu'on se dit, mais misère, s'il va venir si tôt, il faut que ma vie commence à compter. Il faut que je fasse quelque chose d'ici là. Il ne faut pas que je dorme. Alors, quand il a dit tout ça, il a commencé à dire aux disciples de se préparer parce qu'il a donné Noé. Je vous ai donné un peu la semaine dernière pour Noé. Tout le monde pense que c'est lui qui est pris. C'est celui qui est pris dans l'enlèvement. 2 personnes seront dans un champ, 2 hommes, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 seront dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. C'est une image de l'enlèvement, bien sûr. Mais la vraie explication n'est pas du tout ça, parce que l'enlèvement n'est pas dans le livre de Matthieu. Matthieu ne donne rien sur l'Église. Matthieu est là pour montrer les 2 grands, pour préparer le monde pour le roi et son royaume. Quelle est la vraie, je vous ai donné la semaine dernière, c'est que l'un sera pris et jeté en enfer, et l'autre sera laissé pour vivre dans le millénium. Je le répète, celui qui sera pris sera jeté immédiatement en enfer, et celui qui est laissé aura la chance de vivre pendant 1000 ans. Imaginez, il y a des gens aujourd'hui qui vont être dans le millénium. Admettons qu'ils ont 60 ans. À la fin du millénium, ils ont 1060 ans. Parce qu'on ne meurt pas pendant le millénium. Dieu va toucher quelque chose dans les gens qui vont prolonger de nouveau leur vie comme au début. Parce qu'au début, les gens vivaient 800 ans, 800, 900 ans. Ça va revenir. Et ceux qui sont là vont vivre pendant 1000 ans. Je sympathise avec Gina. Moi aussi, j'ai toujours ça. Alors, ceci nous prépare, il a dit, soyez prêts. Ce qui caractérise les gens à la fin des temps, c'est cette idée qu'on se marie, on va se donner au mariage. Le statu quo, quoi. On vit comme si rien n'a été. Le fait que les pays s'arment à chaque instant là-bas au Proche-Orient, le fait qu'il y a toute cette huile qui sort, n'est-ce pas, toutes ces choses-là, les tremblements de terre, ce sont des faits divers. Ce qui est important, c'est que la coupe va se jouer en Afrique du Sud bientôt. Ça, sont des vraies nouvelles. Ça, sont des grandes nouvelles. Ça, c'est important, mais tout le reste, ce sont des faits divers. Et les gens les mettent en arrière-plan. On n'y pense pas, on ne pense pas à la mort, on ne pense pas au jugement. On pense que, les vacances sont devant nous. Les vacances sont devant nous. On va voir ce qui va se passer. Oh, si je pouvais vraiment projeter le message, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas à vraiment saisir la chose moi-même totalement. Je veux maintenant passer à cette parabole des 10 vierges. Je ne sais pas si ça vous a jamais troublé, mais ça m'a gardé ça m'a donné des nuits blanches. Combien d'heures j'ai pensé à cette parabole? Et je vous épargne toutes ces nuits blanches, je vais vous donner la réponse ce soir. Alors je vais demander à Pasteur Emmanuel de lire le passage en Matthieu 25.
Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent !» Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. »
Parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure, mais vous connaissez l'époque. L'époque, c'est maintenant. On ne connaît pas le jour et l'heure. Donc il faut veiller, parce qu'on ne sait pas quand il va venir. Il peut venir encore cette semaine. Quelle est l'explication de cette parabole? Alors on a 10 vierges là. 5 folles, 5 sages. Alors les 5 sages avaient de l'huile, et les 5 folles n'avaient pas d'huile. Ça, c'est clair, ça, c'était après la lecture de la parole. Alors, voilà comment on donne l'explication. Il faut avoir l'huile. L'huile est toujours dans la Bible, symbole du Saint-Esprit. Ceux qui avaient le Saint-Esprit étaient sauvés, et ceux qui n'en avaient pas étaient perdus. Ça, c'est une simple explication de cette parabole. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai? Oui. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On peut avoir une religion sans avoir le Saint-Esprit. On peut être fidèle dans sa religion sans avoir le Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'on a le Saint-Esprit? C'est quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur. Dès qu'on accepte Christ, qu'on donne sa vie à Christ, il nous donne le Saint-Esprit, on a l'huile et on est une lumière dans le monde, pour briller dans le monde. Est-ce que ça, c'est l'explication de la parabole? Absolument pas. Ce n'est pas du tout l'explication de la parabole. C'est ce que je viens de dire est vrai. Hein? Je ne vous ai rien dit qui n'était pas vrai. Il faut avoir le Saint-Esprit si on veut aller au ciel. Mais ce que j'ai dit n'est pas l'explication de la parabole. La parabole a une autre explication tout entière, différente que ça. Prenons la parabole maintenant, morceau par morceau, pièce par pièce. Il y avait 10 vierges. Donc toutes les 10 étaient vierges. Virginité voulait dire pureté. Donc, elles étaient tous purifiées, non pas parce qu'elles étaient pures par elles-mêmes, mais parce qu'elles étaient purifiées par le sang de Christ. Elles avaient accepté Jésus comme leur sauveur, comme leur roi. Ils ont donné attachement à Christ, sachant qu'il n'y avait qu'en lui. Lavées, donc elles étaient toutes les 10 lavées, pures, blanches, des vierges. En plus de cela, toutes les 10 avaient l'huile. Vous dites, comment toutes les 10 avaient l'huile? Oui, parce qu'elles ont dit, nos lampes s'éteignent. Une lampe ne peut pas s'éteindre si elle n'était pas allumée. Donc ça prouve qu'elles avaient l'huile, mais elles en avaient perdu. Elles étaient sauvées, mais elles n'étaient plus. Ouh là là, oui, maintenant, on a des problèmes. Hein? Parce qu'il est dit dans la Bible que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Que quand on accepte Christ, le Saint-Esprit devient un sceau, un tampon sur nous, et nous sommes tamponnés jusqu'au jour de la rédemption, jusqu'au jour où Christ revient nous chercher. Alors, comment se fait-il donc qu'elles ont perdu leur salut? Parce qu'elles n'étaient pas dans l'âge de la grâce. Cette scène se passe après notre départ. C'est pendant la tribulation qu'il est en train d'expliquer ça. Ces 10 vierges sont des chrétiens de la tribulation. Vous savez qu'il y a un verset dans la Bible qui dit quelque chose comme ceci, qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. Vous n'avez jamais lu peut-être ça. Mais ce verset, encore Matthieu. Mais pourquoi? Mais parce que c'est pendant la tribulation qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. Parce que si vous ne persévérez pas jusqu'à la fin, vous serez perdus. Parce que dans la tribulation, on n'est pas scellé par le Saint-Esprit. On peut avoir le Saint-Esprit, mais perdre le Saint-Esprit. Parce qu'on n'est pas scellé dans la tribulation. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui est arrivé à ces 5 folles? C'est-à-dire, il faut comprendre, pendant la tribulation, la souffrance sera terrible. Pour acheter ou vendre, pour manger, il faut avoir la marque de la bête. Jésus n'explique jamais qu'il y a la marque de la bête. On découvre ça en Apocalypse, la marque de la bête. Mais voilà, ça ne veut pas dire que Jésus ne savait pas. Ce n'est pas parce que les 5, l'une a dit un petit mensonge à l'autre ou ça, hop, perdu, non, non, non. Dieu n'enlève pas comme ça parce que nous sommes tous des pécheurs faits de poussière, n'est-ce pas? Il connaît nos faiblesses et tout cela. Non, elles n'ont pas perdu parce qu'elles ont fait un péché grand ou petit. C'est qu'elles ont accepté finalement la marque de la bête. Quand on reçoit la marque de la bête, c'est fini. Après cela, c'est terminé. On ne peut pas. Elles n'ont pas persévéré jusqu'à la fin. Oh, elles ont commencé. Oh, elles ont dit, oui, on restera fidèles, Seigneur, sauve-nous, etc., etc. Et elles avaient la joie de leur salut, mais pas la persévérance. Parce que quand leurs amis, quand le gouvernement, quand tout le monde prend la marque, prend la marque, prend la marque, vous savez, quand vous êtes martelé tous les jours, semaine après semaine, ne me dites pas, oh, moi, je ne céderai jamais, oh, moi, non. Non, il faut pas dire ça, vous ne céderez jamais. Il y a 5 qui n'ont pas cédé, hein. Il y a 5 qui n'ont pas cédé. Mais 5 ont cédé. Et elles ont reçu la marque de la bête et pris instantanément à l'arrivée de Christ et jeté en enfer. Ça, je crois que ça dit ça à la fin. Je ne me rappelle pas comment ça finit, le passage là. Hein? Je ne vous connais pas, c'est ça. Je ne vous connais pas. Christ ne les connaissait même pas. Donc perdu. Perdu pour l'éternité. Alors, après cela, il a donné la parabole des talents. Moi, je ne vais pas traiter, parce que Pasteur Emmanuel l'a bien traité l'autre jour. Et donc, je laisse cela avec lui. Et on passe aux nations. Moi, je dois vous avouer que c'est la parabole la plus difficile pour moi d'expliquer. C'est difficile. Je vais demander à Pasteur Emmanuel de lire encore. Il ne va pas lire tout, hein, parce que c'est long. Vous connaissez au milieu, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'on t'avait vu avoir faim ou avoir soif, ou être en prison, et Jésus qui finit par disant ce que vous avez fait pour le plus petit, vous l'avez fait pour moi, etc., etc. Mais il va lire le début et la fin de cette parabole.
Matthieu 25, verset 31. lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes répondront, « Seigneur, quand ?» Il dit, « Chaque fois, verset 40, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dit à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim, etc. » Quand avons-nous à avoir faim ? Il leur répondra, verset 45, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. »
Merci. Comme je vous ai dit, c'est une des plus difficiles à expliquer de toutes les paraboles. Ce que je peux vous dire avec certitude, il y a certaines choses que je peux vous dire avec certitude. Ce jugement ne se passe pas au ciel, mais sur terre. Première remarque. Quand il parle aux brebis, il dit « Entrez dans le royaume qui est préparé pour vous. » C'est-à-dire, elles ont droit d'entrer dans le millénium. Entrer dans le millénium et les autres sont condamnés. Des boucs sont condamnés, les brebis peuvent continuer à vivre. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ils vont vivre pendant 1000 ans. Deuxième chose, le jugement n'est pas sur les œuvres. En disant, voilà, toi, tu as fait ceci, tu as fait cela, bon, toi, tu n'as pas fait ça et ça. Non, c'est uniquement sur une seule chose, une critère. Un seul critère. Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères. De mes frères. Ça veut dire des Juifs. C'est-à-dire,
allez-y.
Voilà, maintenant, vous savez pourquoi on aime quand Gina est là. Elle a toujours ce qu'il faut. Elle m'a donné quelque chose pour la gorge juste avant de venir, et puis maintenant pour les piles, pour que je puisse continuer. Je ne sais pas encore ce dont j'aurais besoin avant de finir. Une autre chose dont on est sûr. Quand ça dit le jugement des nations, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas prendre les Français, les Allemands, voilà. Non, non, c'est individuel. Hein. Chacun va paraître devant lui. Et le jugement, comment vous avez traité les Juifs pendant la tribulation? Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si les Juifs ont souffert jusqu'ici, ce n'est rien en comparaison de ce qu'ils vont souffrir après. La Bible dit qu'ils seront tués par des milliers, des milliers, des milliers, des millions. Alors, il y aura une persécution à outrance contre eux. Alors, si quelqu'un, pendant la tribulation, est un ami, les cache quelque part, les garde, se mettent de leur côté, prêts à être comptés avec eux, alors, lui, il aura entré dans le millénium avec les Juifs. Quels Juifs ? N'oublions pas qu'il y aura 144 000 évangélistes juifs qui vont aller partout prêcher Et puis quand Christ reviendra dans sa gloire, les Juifs, tous les Juifs, la Bible dit, et tout Israël sera sauvé. Quand ils verront le Messie arriver, ils vont tous tomber à plein ventre, dans la poussière. Et là, ils vont rester, lamenter le fait qu'ils ont négligé le Messie pendant 2000 ans. Tout Israël sera sauvé. Et les brebis qui les ont gardées, qui les ont protégées pendant ce temps-là, vont se mettre avec eux, et c'est eux, les Juifs et les gens qui les ont aidés, vont entrer dans le millénium ensemble. Quand ils entreront ensemble, eux, ils sont donc du côté de Jésus, leur épreuve est passée. Ils vont toujours rester du côté de Dieu. Mais ils vont avoir les enfants. Et ils vont passer à leurs enfants la nature pécheresse. Et les enfants n'auront pas la même idée que les papas et la maman. Et là, leur jugement viendra à la fin du millénium. Alors, à ce moment-là, Satan sera relâché. Et il va dire, suivez-moi, on va détruire Jérusalem, les Juifs et ceux qui sont avec. Alors, à ce moment, c'est la grande guerre à la fin des temps. Et toute cette multitude vont être jugés et envoyés en enfer. Ça, c'est la fin. Après cela viendra le grand trône blanc. Mon dernier message sera le grand suprême plan de Dieu d'éternité en éternité. J'espère que vous n'allez pas rater le dernier message. C'est la première fois que je vais le prêcher, d'ailleurs. Mais c'est intéressant. Ce que je veux laisser avec vous, ce soir surtout, c'est l'idée qui va venir bientôt. Le roi vient. Le roi vient. Ça, c'est le message de Matthieu. Mais avant que le roi vienne, l'époux va venir chercher son épouse. Bien des années avant. Très bientôt. Est-ce que ça sera dans 2 ans, 3 ans? Je l'espère. Est-ce qu'il va attendre encore 4 ou 5 ans? J'espère que non. J'espère qu'il vient avant. Mais je sais une chose, que Dieu ne veut qu'aucun périsse. Il va prolonger l'âge de la grâce aussi longtemps que possible, tout en restant dans ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit, il va venir. Il va venir quand son peuple sera dans le pays. Et vous savez que son peuple est devenu une nation dans les moments les plus difficiles qui soient. Il aurait pu choisir un moment plus favorable. Personne n'attendait la naissance d'Israël, mais personne. Pourquoi? Mais parce qu'il vient de sortir des prisons, des camps de concentration. Et l'Angleterre était là pour armer les pays arabes. Ils avaient tout là. Ils ont même entraîné des généraux pour combattre parce qu'ils avaient peur peut-être qu'ils voulaient venir. Ils ont fait tout pour arrêter qu'ils arrivent dans le pays. Et pourtant, ils sont arrivés, et malgré le nombre de leurs armées, malgré le nombre d'armes qu'ils avaient en face de ce petit peuple qui vient d'arriver, qui a gagné? Israël. Et qui va gagner encore? Israël. Et qui va gagner à la fin? Israël. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Parce que Dieu a mis sa main sur eux. Et quelquefois, eux, et combien de fois j'entends les Juifs qui disent, j'aimerais que Dieu ne nous aime pas autant. Parce que c'est toujours eux sur quoi tout le monde tombe tout le temps, tout le temps, tout le temps. À la fin, toutes les nations vont tourner contre Israël. Toutes les nations, y compris l'Amérique. Toutes les nations seront contre Israël. Mais Israël va survivre. Pour une seule raison. Parce que Dieu l'a dit. Et parce que Dieu le protège. Et c'est même Dieu qui a dit tout ça. C'est le même qui nous attend. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous chercherai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il va venir très bientôt. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Chacun doit répondre à cette question si importante. Prions Dieu. Seigneur, nous te remercions de ta parole qui est véridique. Seigneur, quand tu dis quelque chose, tu l'accomplis. Tu tiens parole. Tu ne nous laisses pas dans le doute. Tu nous donnes des versets pour nous assurer. Assurer notre salut. Tu nous as dit que nous sommes scellés par ton Saint-Esprit, que nous t'appartenons, que tu es notre berger, que tu vas nous garder, nous conduire. Et Seigneur, merci. Merci de ce groupe qui est ici ce soir. Seigneur, garde-les. Seigneur, réveille ton Église. Seigneur, donne-nous une vision de ce que tu attends de nous. Aide-nous à toucher cette ville de Paris. Seigneur, que nous partions avec ce message gravé dans notre cœur, le roi vient.